Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il est le prince des poètes, l'un des plus importants que le XVIe siècle ait compté, un témoin privilégié de la Renaissance. Stéphane Bern nous raconte le poète aux milliers de vers qui a inscrit son nom évidemment à jamais dans l'histoire, Pierre de Ronsard.
Pour découvrir le destin du prince des poètes, je vous propose une plongée dans le pays vendômois. Non loin des rives du Loir, à la lisière de la forêt de Gastine, là-bas se trouve un manoir fortifié sur lequel le sieur Loïs de Ronsard règne en maître. En cette journée de septembre 1524, il n'est pas peu fier d'annoncer la naissance de son quatrième enfant entre ses murs. C'est un garçon que l'on a prénommé Pierre. La relève est assurée pour le preux chevalier qui peut enfiler son armure et repartir en campagne militaire. C'est à sa chère épouse que reviendra le soin d'élever leur progéniture. Le petit Pierre grandit donc dans un univers bucolique qui lui inspirera bien des vers à l'âge adulte. Il passe des heures dans la bibliothèque du manoir et se rêve en Bayard, ce chevalier sans peur et sans reproche aux côtés duquel son père a combattu pendant les guerres d'Italie. D'ailleurs, ce père a de grands projets pour son jeune fils. Alors Pierre de Ronsard est arraché à sa campagne natale pour gagner les ruelles parisiennes. Il entre au Collège de Navarre, une institution perchée sur la montagne Sainte-Geneviève. Mais 6 mois plus tard, il en est déjà retiré. Il semblerait que le jeune homme ait de mauvaise fréquentation. Dans cette école, on débat un peu trop sur les idées de la réforme. Et oui, souvenez-vous, cette période de l'histoire est marquée par la naissance du protestantisme impulsé par Martin Luther. Or, chez les Ronsard, on est de fervents catholiques. Il ne faudrait pas que le jeune garçon se mette à filer du mauvais coton. Mais fort heureusement, le petit prodige marche dans les pas de son paternel. Il entre au service de l'héritier de la couronne en tant que page. Sauf qu'à peine Ronsard a-t-il passé les portes du château de Tournon que le fils du roi François Ier trépasse dans des circonstances douteuses. Voilà qu'âgé d'à peine 18 ans, il est pris d'un malaise après avoir bu un verre d'eau fraîche. On se demande vite si le divers ne contenait pas autre chose. Du poison, peut-être. Toujours est-il que, fidèle à son maître, Pierre de Ronsard l'accompagne jusqu'à son dernier souffle et le veille même sur la table d'autopsie. Cette vision macabre inspirera quelques vers au poète qui sommeille déjà en lui. Je vis son corps ouvrir, osant mes yeux repaître des poumons et du cœur et du sang de mon maître. Pierre de Ronsard reste au service des dauphins successifs et fait la fierté de ses parents. Il démontre aisément qu'il est un des pages les plus prometteurs de la cour. Son destin est tout tracé. Il excellera dans les fonctions diplomatiques ou militaires. Oui, mais voilà, son plan de carrière est soudainement réduit à néant. Pierre a contracté une fièvre affreuse. On murmure que c'est une maladie vénérienne. Le pauvre est alité des mois durant à la poissonnière. Mais alors qu'on le pensait condamné, il revient des ténèbres, en ayant perdu la moitié de ses capacités auditives. Chose fâcheuse lorsqu'on aspire à diriger des troupes sur un champ de bataille. Oui, on imagine mal le chevalier de Ronsard, une épée à la main et un cornet acoustique dans l'autre. Pierre n'a alors plus qu'à amorcer une reconversion professionnelle. Il prend la tonsure, c'est-à-dire qu'un évêque rase le sommet de son crâne pour signifier son entrée dans l'état ecclésiastique. Propulsé dans une vie nouvelle, Pierre de Ronsard reprend les études. Il découvre la poésie antique, Homère, Virgile, Horace, et la poésie italienne menée par Pétrarque et ses émules. En un rien de temps, ces auteurs n'ont plus aucun secret pour lui, et c'est là que sa véritable vocation lui apparaît. En fait, Ronsard se débrouille particulièrement bien lorsqu'il s'agit de manier la plume et d'éclamer des vers. Le poète en herbe s'essaye aux odes horaciennes, découvre les alexandrins et se met au sonnet. En pleine effervescence intellectuelle, il se lie à d'autres étudiants férus de poésie. Parmi ceux-là, on retrouve l'auteur de ce célèbre alexandrin, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme sais-tu là. Vous avez reconnu, Mathieu ?
Joachim du Bellay, bien sûr.
Bravo. Ensemble, ils forment la brigade, qui s'appellera ensuite la Pléiade, qui réunit 7 poètes, comme les étoiles de la constellation. Cette fine équipe entend tout simplement lancer un mouvement littéraire lequel doit redonner à la langue française ses lettres de noblesse. Et oui, pourquoi devrait-on envier les auteurs de l'Antiquité ? Face à tant d'ambition, les rivalités ne tardent pas à poindre. Nombreux sont les poètes qui cherchent à éblouir la cour du roi, et ces derniers temps, les plus en vogue étaient les représentants de l'école marotique. mais la poésie savante apportée par Ronsard et sa bande leur fait de l'ombre. Alors dans une vile tentative pour déstabiliser l'adversaire, le poète Mélin de Saint-Gelais s'amuse à dévaloriser les poèmes de Ronsard devant le roi. C'était sans compter sur Marguerite de France, la sœur d'Henri II, a choisi son camp et compte bien favoriser ses petits protégés. Nous parlons des amitiés de Ronsard, mais n'oublions pas ses amours. Un soir, au château de Blois, alors que la fête bat son plein, Ronsard croise un doux regard qu'il n'oubliera jamais. C'est celui de la jeune Cassandre Salviati, la fille d'un riche banquier florentin. Le poète est transpercé illico par les flèches de Cupidon. Oui, il est fou amoureux. Pierre de Ronsard est amoureux, mais un peu de raison s'impose. Son état de clerc tonsuré, qui signifie qu'il aspire à l'état ecclésiastique sans pour autant être moine, rappelle à tous, lui y compris, qu'il lui est interdit de se marier. Le cœur en miettes donc, il apprend impuissant l'union de Cassandre Salviati avec le seigneur de Pré. Alors Pierre sort sa plume et sur le papier l'encre se mêle aux larmes pour écrire ses odes les plus célèbres que l'on a tous appris par cœur à l'école. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vêprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Mais trêve de mièvrerie, le poète est bien décidé à ne pas sombrer dans la mélancolie, alors il ne s'attarde guère dans le registre de l'amour platonique et se lance sans tarder dans l'écriture de vers scandaleux. Dans le livret des Folastries, le style est grivois. Oui, il y est question de lance au bout d'or et de vermeillet de fente. Je ne vous fais pas de dessin, non, Mathieu, vous avez compris.
J'ai tout à fait compris.
Continue. Mais Ronsard n'a pas perdu le sens des réalités et fait publier ses poèmes de façon anonyme. Le poète a du flair, car à peine diffusé, son livret des Folastries est brûlé sur ordre du Parlement pour sa haute teneur immorale. Pourtant, chassé le naturel, il revient au galop. Pierre de Ronsard est un vrai cœur d'artichaut et revient à des vers passionnés, car après Cassandre, il chantera l'amour dans ses odes à Marie, ses poèmes à Isabeau, Genève ou Rose, et peut-être les plus célèbres, ses sonnets à Hélène de Surgère, fille d'honneur de Catherine de Médicis. Elle avait 20 ans de moins que lui, elle portait le deuil d'un fiancé perdu, alors la reine lui avait conseillé de consacrer des poèmes à cette jeune femme, en raison de sa beauté, certes, de son malheur peut-être, mais de son esprit surtout. Ronsard est un passionné. Il est très prolifique et a le vent en poupe, si bien qu'il devient poète officiel à la cour. S'il est le prince des poètes, il est aussi le poète des princes. Et oui, ses vers à la gloire des souverains successifs servent la propagande royale et lui remplissent les poches. Jusqu'à son dernier souffle, Pierre de Ronsard écrira des poèmes. En voici un dernier, dicté au crépuscule de sa vie. Il faut laisser maisons et vergers et jardins, vaisselles et vaisseaux que l'artisan burine, et chanter son obsèque en la façon du cygne qui chante son trépas sur les bords méandrins. C'est fait. J'ai dévidé le cours de mes destins. J'ai vécu, j'ai rendu mon nom assez insigne. Ma plume vole au ciel pour être quelque signe, loin des appâts mondains qui trompent les plus fins.
Europe 1, historiquement vôtre.